Et c'est un bonheur de le retrouver cet après-midi pour parler sport avec lui. Ça fait, je pense, une 10e saison, quelque chose comme ça, qui nous parle de sport chaque jeudi après-midi. Olivier Beauregard, bonjour!
Hey, quand tu dis ça, ça passe vite en tabarouette.
Quand même pas mal, mais c'est un bonheur de te savoir là et que tu as accepté de revenir pour une autre saison pour nous démêler un peu ce qui se passe dans le monde du sport. Puis ben, ça n'a pas fait exception. L'été a été rempli de rebondissements, de nouveautés, tout ça. Ouais. Mais on commence avec quelque chose qui s'est passé cette semaine. C'est le tournoi de golf du Canadien de Montréal où ben, on dirait que tout le monde ne s'entend pas pour avoir le même discours.
Oui, exactement. Ben, tu sais, c'est pas mal ça qui lance, si tu veux, l'automne, la saison de hockey, la saison de football, quand il y a le tournoi de golf du Canadien de Montréal, parce que c'est comme si là, c'est vrai que l'automne est arrivé, les temps froids commencent. Et écoute, parlant de temps froid, il y a comme eu un froid pendant la conférence que les joueurs et les dirigeants ont donné lors du tournoi de golf du Canadien. Tu sais, ça arrive à chaque année, là. Il y a toujours beaucoup d'entrevues. On monte deux grands podiums chez le Canadien de Montréal pour s'assurer que on fasse une couverture complète, médiatiquement parlant, là, de la journée. C'est aussi là où on établit nos nouvelles bases. Tu sais, le Canadien a profité de l'occasion du tournoi de golf pour dire que Mike Matheson agira à titre d'adjoint au capitaine. Alors, on savait déjà que Brendan Gallagher était l'autre adjoint et que Nick Suzuki était le capitaine, mais Mike Matheson a été nommé. L'annonce a été faite au tournoi de golf. Mais après ça, lorsqu'il y a eu des points de presse, ben évidemment, quand la direction s'est adressée à la presse, on leur demandait c'est quoi l'objectif du Canadien? Parce que vous savez, l'an dernier, c'est beau, là, le vent de renouveau et tout ça, mais ça a laissé des partisans sur leur faim. Mm-hmm. Le fait que l'équipe participe aux séries éliminatoires, le fait que la saison était pas mal en dents de scie. Alors, on a demandé aux dirigeants, à quoi vous attendez en vue de la prochaine saison? Est-ce que vos demandes, vos exigences vont être plus élevées? Et ce qui est intéressant, c'est que du côté du Canadien de Montréal, je pense à Jeff Molson, je pense à Kent Hughes, je pense même à Jeff Gorton, qui les trois ont commenté le dossier en disant, on va être patient. Ils avaient tous le même discours. On va être patient. On est une équipe en reconstruction. Pour nous, l'important, c'est le développement des joueurs. C'est d'amener l'équipe au prochain niveau, d'amener l'équipe à aspirer à plus éventuellement. Mais on met pas de deadline. On met jamais de temps sur auquel on veut que l'équipe soit arrivée à maturité. On met jamais de temps où il sera obligatoire pour l'organisation de faire les séries éliminatoires. Alors, tu vois que la direction avait comme sa ligne directrice, c'est-à-dire on est encore dans la phase de développement. Précipitons pas les choses. Mm-hmm. C'est correct, là. Je suis conscient qu'ils veulent se garder une gêne là-dessus, puis je le comprends même, je te dirais à la limite, mais tu sais, c'est que on a comme l'impression que la direction se fait encore très, très, très timide par rapport aux exigences, par rapport aux attentes des partisans envers l'équipe, en disant ça se peut là que cette année, on ne fasse pas encore les séries éliminatoires. Mais là, le bas blesse, c'est quand on parle aux joueurs. Parce que là, tu as Brendan Gallagher, Josh Anderson, qui disent, eux, c'est les séries ou rien. Quand tu es un joueur de hockey, tu veux faire les séries éliminatoires. Nous, notre objectif, c'est de faire les séries. Alors, c'est là où le discours est vraiment différent des deux côtés. On a l'impression un peu que l'organisation parle des deux côtés de la bouche. Mais tu sais, Sébastien, au final, là, puis on le sait, là, c'est les joueurs qui vont décider comment la saison du Canadien va se dérouler. C'est-à-dire que si les joueurs décident qu'ils veulent faire les séries, ils vont se battre jusqu'à la fin. Mm-hmm. Quand même bien que Martin Saint-Louis, Kent Hughes, Jeff Gorton, Jeff Molson disent que on veut être patient, pour on veut prendre notre temps, pour on veut parler de développement. Si les joueurs décident que c'est cette année les séries, puis qu'on va jouer pour faire une place en série, ben c'est eux qui, au bout du compte, vont avoir le gros bout du bâton. Puis c'est un peu le même principe dans le cas contraire. Si les joueurs décident que ben, regarde, nous autres, là, on ramasse notre chèque de paye, on joue nos matchs, on s'en va à la maison, ben, c'est souvent là que les séries éliminatoires, le manque de participation aux séries éliminatoires se fait. Alors, bref, tout ça pour dire que c'était deux discours, puis là, tu voyais ça sur les tribunes un peu partout. Comment ça se fait que le Canadien a un double discours déjà au camp d'entraînement? Hey, faut se calmer, là. Les joueurs, là, j'ai jamais vu un joueur de ma vie pour côtoyer des joueurs à tous les jours. J'ai jamais vu un joueur de ma vie arriver devant le micro et dire « Ah, ben c'est pas grave si on fait pas les séries éliminatoires cette année, ben ça ne me dérange pas. » Tu sais, je veux dire, c'est des compétiteurs, là, c'est des athlètes. Eux, ils veulent performer au plus haut niveau, puis le plus longtemps possible, puis pour les plus grands enjeux possibles. Mm-hmm. Alors, demandez pas à un athlète de dire « Ben, regarde, si on fait pas les séries, c'est pas grave, ça arrivera pas, ce discours-là. » Tandis qu'une direction qui bâtit une équipe, qui veut aspirer à un championnat éventuellement, mais qui sont conscients des exigences, qui sont conscients aussi où ils en sont présentement dans leur processus, normal qu'ils n'iront pas dire on va gagner la coupe et préparer vos chaises sur 5-4.
Non, ben c'est sûr. Ils ont le luxe de pouvoir avoir un pas de recul là, pour analyser la situation. Là.
C'est correct. C'est pour ça que je dis, il faut que je pense que les gens, là, on s'est enflammé. Le hockey nous manque, je comprends, on a hâte que ça recommence, mais calmons-nous. On peut pas parler déjà un malaise ou déjà un problème de communication au sein du Canadien. Là, je pense juste que les deux côtés, on a déterminé les objectifs précis pour le groupe qu'on représente, c'est-à-dire soit le groupe de l'organisation ou soit les joueurs en tant que tels.
Voilà pour le tournoi de golf du Canadien. Tu as parlé aussi de l'automne qui arrive avec le football qui s'est amorcé dans la NFL la semaine dernière. Mais là, parlons du cas d'Aaron Rodgers parce que la saison a beau s'amorcer, on le verra pas beaucoup.
Et puis s'il y avait un match que j'avais hâte de voir, c'était celui-là de mes Bills contre les Jets. J'avais tellement hâte de voir ce match-là. J'étais assis devant mon écran, bien assis confortablement. Non seulement, puis tu sais, je ne l'ai jamais caché, là, j'étais un grand partisan des Bills de Buffalo, mais de aussi voir Aaron Rodgers dans un autre uniforme que les Packers de Green Bay, j'avais hâte de voir ça. Puis écoute, les Jets de New York en ont parlé tout le long de la saison morte, à quel point c'était fantastique, que là, l'équipe pouvait aspirer à beaucoup plus avec un Aaron Rodgers dans ses rangs. Puis ce qui devait arriver, arriva. Premier quart, Aaron Rodgers n'a pas... écoute, c'est un accident anodin, là. Je veux dire, Aaron Rodgers a tenté une passe, a esquivé un joueur à la défensive, mais s'est fait accrocher et bon, il y a eu une fracture dans son cas. Et le pire, c'est confirmé hier, si je me trompe pas, là, sa saison est terminée, Sébastien.
Hey, hein?
Il sera pas de retour. Et là, c'est là que tu te dis, qu'est-ce que les Jets ont fait pour mériter à chaque année d'avoir des situations de ce genre? À chaque année, là, on essaie de créer, si tu veux, un genre de momentum, un genre d'enthousiasme envers l'équipe en signant des gros contrats, en signant des joueurs qui sont convoités, mais ça finit toujours de mauvaise façon. Mm-hmm. Et malheureusement, Aaron Rodgers, là, je te le dis, là, les attentes envers les Jets cette année avaient augmenté considérablement avec Aaron Rodgers dans leur rang, parce que là, tu comptes sur un corps arrière d'expérience, un corps arrière qui a gagné, un corps arrière qui sait comment gagner, et là, tu viens de dire que sa saison est terminée. Écoute, ça fait mal. Tu sais, c'était pas une bonne journée pour être hier pour être un partisan des Jets de New York. Puis, en même temps, ce que ça me dit, c'est qu'Aaron Rodgers, c'est peut-être la fin de sa carrière également, parce qu'il est à 40 ans, là. Je veux dire, à un moment donné, ta carrière n'est pas éternelle.
Puis là, il pourra pas s'entraîner.
Ce sera la blessure de trop.
Tu sais, il pourra pas jouer, mais il pourra pas s'entraîner non plus. Là. Il gardera pas sa forme à 40 ans en restant assis en attendant de guérir, là.
Non, exactement. Puis maintenant, c'est de voir, est-ce que l'an prochain, les Jets vont vouloir tout miser à nouveau sur Aaron Rodgers, Aaron Rodgers un an plus vieux, puis on comprend là que c'est pas énorme, mais rendu dans la quarantaine, les années montent rapidement quand t'es un joueur de football, quand t'es un athlète de haut niveau. Alors, cette année-là peut faire une grande différence. On verra, mais j'ai trouvé ça triste, et ça a ramené le débat dans la Ligue sur du gazon naturel. Parce que là, selon certains spécialistes, Sébastien, si Aaron Rodgers avait joué sur un terrain à gazon naturel, c'est un accident qui aurait peut-être été évité. Je suis pas un grand spécialiste, j'étudie pas les terrains de la NFL, là, mais je sais pas à quel point ça aurait changé la donne. Là, je pense qu'on est plus en train d'essayer de trouver des excuses, mais ce qui est malheureux, c'est un accident bête, comme il s'en fait plein. C'est un sport de contact, c'est un sport qui est très violent, le football. C'est des situations comme ça, c'est des paris qui sont risqués, et c'est peut-être aussi aux Jets de comprendre que quand tu mets tous tes œufs dans le même panier, si jamais t'échappes ton panier, ben t'as plus d'œufs qui te restent.
Ouais,
c'est un peu ça qui est arrivé aux Jets.
Ils doivent pas mal se mordre les doigts là en ce début.
Ben écoute, je souhaite la meilleure des chances à Wilson, son remplaçant, finalement lui qui aura le rôle de corps arrière du joueur. Mais ça va être difficile. Je pense que son manque d'expérience éventuellement va rattraper les Jets. Mais je dis ça. Puis les Bills ont perdu. Fait qu'on sait jamais.
Bon, tu parlais de joueurs de 40 ans dans le monde du football. Parlons donc de Tom Brady, parce que lui aussi avait de l'actualité sportive à son sujet cette semaine.
Ben, c'était son grand retour à Foxborough. Tu sais, il n'avait pas été de retour en tant que joueur après son échange avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il n'était jamais retourné en Nouvelle-Angleterre, dans le domicile des Patriots, au Gillette Stadium. Et là, il était retourné en tant plutôt que partisan. Et ça a été, écoute... C'est comme si on venait d'accueillir le Messie. Puis avec raison, là, je veux dire, ce gars-là a remis la concession des Patriots, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, sur la map. Et son retour à Foxborough a vraiment été bien accueilli. Tu sais, c'est pas un grand édito que je veux faire là-dessus. Je veux juste vous dire que les choses ont été bien faites. Puis je suis quasiment content que Tom Brady revienne à Foxborough, pas en tant que joueur, mais plutôt en tant que ancien joueur des Patriots, parce que ça aurait été bizarre de le voir dans un autre uniforme, en raison de tout ce qu'il représente pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Tu sais, pour deux saisons avec les Buccaneers, je comprends là, qu'il a gagné le Super Bowl avec Tampa Bay, mais pour tout ce qu'il représente pour les Patriots, de le voir dans un autre uniforme, je pense pas qu'on aurait vibré de la même façon. Alors, en tout cas, ça a été un beau moment, je l'ai regardé. J'ai été vraiment impressionné aussi là, à quel point la foule tu sais, je savais qu'est-ce qu'il représentait, mais pas à ce point-là, à quel point la foule l'aime. Donc, ça a été un très, très beau moment pour lui, j'en suis convaincu. Là.
Et maintenant, Olivier, parlons de cette nouvelle ligue de hockey féminin, la Ligue professionnelle de hockey féminin, la LPHF, qui va amorcer ses activités en janvier, me semble, c'est ça?
Oui, exactement. Ouais. Ça va débuter en janvier prochain. Là, il y a déjà des signatures qui sont annoncées. Mm-hmm. Ce qui est intéressant pour les amateurs de hockey, là, c'est qu'il va y avoir une équipe qui va se retrouver non seulement à Montréal, mais aussi dans la région d'Ottawa. Ça, c'est, écoute, pour moi, c'est une excellente nouvelle. C'est déjà, si tu veux, une certaine rivalité qu'on va pouvoir vivre. Il va y avoir une équipe à Boston, une équipe à New York, si je ne me trompe pas, Toronto également. Mm-hmm. Là. Mais écoute, cette nouvelle ligue-là de femmes professionnelles de hockey va peut-être être précurseur de ce qui va venir par la suite. Et si, tu sais, on parle d'une masse salariale de plus d'un million de dollars, déjà là, ça s'est jamais vu. Avec des dirigeants qui ont travaillé dans le monde du hockey, tu sais, je pense juste à Montréal, Danielle Sauvageau, qui est, si tu veux, Madame Hockey Canada, ouais, oui. C'est les femmes, là, c'est Madame Hockey Canada, c'est elle qui va chapeauter le travail à Montréal en tant que directrice générale. Moi, je trouve que c'est des bonnes nouvelles. Maintenant, là c'est là que c'est... Et là, mon point d'interrogation, c'est l'assistance, Sébastien. Mm-hmm. Je comprends le désir de vouloir avoir une ligue comme ça. Elle le mérite. Ce sont des athlètes d'exception également. Mais j'ai hâte de voir si on va attirer les gens. Puis honnêtement, c'est ça qui me fait peur un petit peu. Parce que t'as beau mettre tous les efforts, t'as beau mettre les moyens financiers, au final, si les gens assistent pas à tes rencontres, si les gens sont pas intéressés par ton produit... t'es condamné à ne pas avoir une grande longévité, si tu veux. Mm-hmm. Et c'est un peu ça qui me fait peur. Alors maintenant, c'est une ligue de qualité. Voyons voir combien de gens on va pouvoir attirer pour assister à ces matchs-là. Voyons voir également si on va être capable, parce que c'est un travail aussi pour la ligue et pour les équipes de créer un hype, t'sais, un engouement envers cette ligue-là. C'est à eux de travailler, d'être présents sur les réseaux sociaux, présents dans la communauté, d'aller chercher les partisans. Et si on est capable de faire ça, si on est capable de, justement, exposer le produit, montrer de nouveaux produits aux gens qui sont des amateurs de sport, ben peut-être qu'éventuellement, on va s'attirer des partisans, puis des partisans réguliers. Puis si on est capable de faire ça, ben sait-on jamais, cette ligue-là pourrait survivre longtemps et pourrait également créer des petits un peu partout en Amérique du Nord, c'est-à-dire d'autres équipes qui joignent au circuit. Puis éventuellement, ben, on aurait une ligue, non seulement une ligue professionnelle, mais une ligue qui recouvre les meilleurs joueurs de la planète pour les femmes. Ça serait très, très, très intéressant. En tout cas, on verra. C'est un embryon, mais c'est un embryon qui est le plus près, si tu veux, de ce qui est concluant. C'est-à-dire qu'on a vraiment une ligue qui va être partie en janvier. On a une ligue qui va débuter ses activités en 2024. Maintenant, c'est de voir est-ce qu'elle peut durer le plus longtemps possible. C'est pas la première fois qu'on essaie de partir des ligues de hockey féminin. Malheureusement, il y a eu des échecs, mais j'ai comme l'impression que cette fois-ci, c'est peut-être la bonne.
En tout cas, elles auront un automne particulièrement chargé pour livrer la marchandise pour le mois de janvier.
Ils ont 4 mois, Sébastien, pour nous faire acheter le produit. Mois, là, c'est pas énorme, mais c'est du temps pour nous faire acheter un produit. C'est à eux autres de faire le travail. J'espère qu'ils ont un bon plan de match.
En tout cas, on va assurément s'en reparler dans le cadre de cette chronique-là, les jeudis après-midi. Olivier Beauregard, un grand merci pour ton temps, puis on se retrouve déjà jeudi prochain.
C'est reparti, mon ami. C'est un grand plaisir. On se parle la semaine prochaine.